commencer avec un mot de prière, ensuite on va lire la parole. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier encore une fois du fait qu'on puisse se rencontrer ce soir ensemble autour de ta parole, notre Dieu. On te remercie des choses qu'on peut apprendre, puis ta parole est toujours suffisante, Seigneur. Elle pourvoit tous nos besoins, toute notre nourriture qu'on a besoin, puis on te remercie pour ça, Seigneur, parce qu'elle est abondante. On te rend grâce pour tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Donc, on est dans les mystères. On avait fait une introduction, pas la semaine passée, parce qu'on avait dû canceller, mais la semaine d'avant, on avait fait une introduction sur les mystères, les différents mystères du Nouveau Testament. Puis, ce soir, on va commencer avec le premier mystère, qui est le mystère de la foi. Donc, on va aller dans 1 Timothée au chapitre 3. On va lire 1 verset 2 dans 1 Timothée 3. Pour introduire le sujet du mystère de la foi, on sait que les mystères du Nouveau Testament, eh bien, sont mentionnés comme étant des mystères. C'est ce qu'on voit dans 1 Timothée 3, au verset, peut-être on va lire le verset 8 et le verset 9. Il dit, en parlant des diacres, il dit, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Donc, c'est là qu'on a notre mot mystère, le mystère de la foi dans une conscience pure. Comme on avait dit, les mystères, ce n'est pas des choses, comme d'autres ont dit, un mystère, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est qu'on n'aurait jamais pu imaginer ou savoir ces choses-là, à moins qu'elles nous soient révélées. Mais quand elles nous sont révélées, le Seigneur nous a révélé ces choses-là afin qu'on puisse les connaître, les comprendre. C'est important pour notre marche chrétienne de comprendre ces choses-là. Donc, on va aller dans Jude maintenant. Jude, le verset 3 de Jude. Ici, donc, Jude 3, et on lit, Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. Donc ici, le mot mystère n'est pas là, mais ça parle du même sujet. Dans 1 Timothée 3,9, c'était le mystère de la foi, mais ici, il nous parle de la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. Donc, c'est ça qu'on va regarder ensemble. Dans les épîtres pastorales de Paul, bien, on a des instructions de Paul à ceux qui vont poursuivre le travail. Donc, c'est un moment où Paul, il transmet des choses à Timothée, à Tite. Il leur transmet les instructions pour le fonctionnement de l'Église. Puis, c'est ce qu'on appelle les épîtres pastorales de Paul. Il passe le bâton, en d'autres mots, à ceux qui vont poursuivre, qui vont continuer l'œuvre pour le Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Timothée, on voit que le sujet de 1 Timothée, c'est la maison de Dieu. Donc, c'est des instructions en ce qui concerne la maison de Dieu, qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, 1 Timothée 3,15, il nous dit, c'est un verset clé, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, dans 1 Timothée, c'est avec le sujet de la maison de Dieu, en rapport avec la maison de Dieu. Dans 2 Timothée, c'est l'homme de Dieu qui est en question ici. Donc, le verset clé de 2 Timothée, c'est 2 Timothée 2,15 qui dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Donc, comme 1 Timothée, la maison de Dieu, 2 Timothée, c'est l'homme de Dieu. Dans Tite, maintenant, c'est la grâce de Dieu. Et le verset clé pour Tite, c'est Tite 2,11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc, la grâce de Dieu a été manifestée. La grâce est venue par le Seigneur Jésus-Christ. Paul, ici, en transmettant, en donnant les instructions à ses aides, ces gens-là qui viennent après lui, des hommes plus jeunes qui vont maintenant continuer l'œuvre. Lui, il est concerné d'une chose, Paul, quelque chose de très important qu'il veut leur faire comprendre, c'est la saine doctrine. C'est ça le mystère de la foi, là. Puis Paul, en transmettant ça, il voit ça comme c'est un dépôt qui est remis entre leurs mains. Paul, il l'avait reçu, lui, du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Et maintenant, il va le transmettre à Tite, à Timothée et les autres qui sont les aides de Paul. Puis, c'est comme un dépôt. Vous savez, quand on fait un dépôt à la banque, ben, on le met là, puis en sécurité, on sait qu'il doit être produit au moment où on va avoir besoin, qu'on va demander ce dépôt-là qu'on a mis là, on veut qu'il soit encore là, tel qu'on l'avait déposé, puis il va l'en remettre sur demande. C'est la même chose ici avec ce que Paul transmet, c'est la saine doctrine, cette foi-là, le mystère de la foi. Puis lui, Paul, il le voit comme un dépôt dans 2 Timothée 1,14. Il dit à Timothée, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le bon dépôt. Donc, c'est un dépôt, c'est une économie dans un sens, c'est ça d'après le mot dans le texte, c'est une économie. On va aller aussi dans 1 Timothée 6,20. On voit que Paul, il mentionne différents endroits comme quelque chose de très important. Puis, il dit dans 1 Timothée au chapitre 6 et au verset 20, il dit, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Donc, on voit ici, c'est un dépôt, il parle de ceux qui se sont détournés de la foi. Dans 2 Timothée aussi, au chapitre 1 et au verset 13, il dit, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Puis là, il dit au verset 14, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. C'est ça que... Donc, Paul, il voyait ça comme un dépôt. C'est vraiment ça que c'était. C'était un dépôt. Mais lui, ce dépôt-là, il lui avait été confié à Paul. Puis maintenant, lui, il le passe à d'autres qui vont continuer. Puis c'est la même chose que nous aussi, il est venu jusqu'à nous. Ce dépôt-là, puis on doit le recevoir, puis ensuite de ça, le transférer. Mais c'est important qu'il soit gardé dans les termes qui nous ont été donnés. Donc, son exhortation ou son enseignement pour les diacres, comme on a lu, ou les serviteurs de l'Église, dans 1 Timothée 3,9, il dit qu'eux, ils doivent être capables de conserver ou conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. On va aller voir dans Acte 24, Acte 24, le verset 16. Acte 24, le verset 16. Et un petit peu au verset 16, ici. Il dit, Paul qui se défendait devant Félix, puis il dit au verset 15. Il dit, ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Puis là, au verset 16, il dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Donc, on voyait que Paul, pour lui, c'était important de garder une conscience pure. La foi ici qu'on parle, c'est sûr que souvent, on va parler de la foi qui nous sauve, la foi personnel qu'on a mis dans le Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Souvent, c'est ça qu'on a en tête quand on voit le mot foi. On pense à notre foi personnelle dans l'œuvre de Christ pour être sauvé. Mais ici, ce n'est pas ça qui est en question. Quand on parle de la foi, je pense que vous avez sûrement dû réaliser quand il dit de la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes, de conserver la foi. C'est la foi. Et une pour tous. Il y a juste une foi. Puis, il y en a pas deux, il y a une. Mais même cette foi-là qui est en question ici, elle est un des éléments rassembleurs de l'unité de l'esprit qu'on voit dans Éphésiens 4, 3, 6. Et quand il énumère sept choses qui représentent l'unité de l'esprit. Mais c'est des choses qui sont pas entre les mains des hommes. La foi a été donnée comme un dépôt, mais c'est vraiment Dieu qui détient ces choses-là. Puis dans Éphésiens 4, il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, puis il mentionne 17 choses qui sont une, qui ne peuvent pas être changées. Puis là-dedans, il dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc, on voit ici que c'est un des éléments rassembleurs pour l'unité de l'esprit, c'est la foi ici. Puis elle est une seule. On va avoir à rendre compte de ce qu'on va avoir fait de la foi. Parce que c'est quelque chose qui est transmis, comme on a vu, de un à l'autre. Paul, qui l'avait reçu, l'a transmis à Timothée, Tite et les autres êtres, qui, eux, à leur tour, l'ont transmis à d'autres qui les ont suivis jusqu'à maintenant. Puis maintenant, elle nous est transmise à nous comme un dépôt auquel il faut faire attention puis en prendre soin. Puis, afin de pouvoir le transférer aussi à d'autres. Dans Jude 1,3, on avait lu, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de votre salut commun, de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc, c'est quelque chose pour lequel on doit combattre, c'est quelque chose qu'on doit lutter pour le garder tel qu'il est. Peut-être juste regarder Luc au chapitre 1 et versets 1 à 4. Puis avec la même, ici c'est Luc qui transmet des choses, mais il les transmet d'une façon où il a fait vraiment attention, méticuleusement. On va lire les versets 1 à 4 de Luc 1. Il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Voyez-vous, ces sources sont vraiment précises là, parce que c'est important. Il dit, dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il dit, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Voyez-vous avec le soin avec lequel Luc, il prend soin d'aller chercher vraiment la précision de ceux qui ont été des témoins oculaires, qui sont devenus des ministres de la parole, puis il a pris ces choses-là, puis là, il le transmet à Théophile, afin que Théophile puisse être vraiment fondé dans la certitude de ces choses-là. Donc, c'est tout ça, là, c'est la foi qui est transmise au sein une fois pour toutes, puis on doit combattre pour ça, on regarde ça en avançant plus loin. Donc, est-ce qu'on peut vraiment comprendre ici là, le soin qui est pris pour transmettre cette foi-là d'une façon précise, puis s'il n'avait pas été transmis d'une façon précise, imaginez-vous qu'est-ce que ça serait aujourd'hui pour nous autres, mais on a la parole de Dieu, c'est là ce qui est important, donc, la parole de Dieu nous décrit, nous définit cette foi-là. Puis on va regarder, c'est quoi la définition de la foi qui est en question ici, là? Le nouveau dictionnaire biblique nous dit que la foi, qui est mentionnée, on sait qu'il y a la foi personnelle mise dans l'œuvre de Christ pour notre salut, mais ici, la foi qui est mentionnée, il nous dit c'est le corps de doctrine révélé par Dieu. Donc, elle a été transmise, mais elle a été révélée par Dieu. Puis, c'est important ici. T.R.S. Wilson, il nous dit, ce n'est pas l'action de croire, ça serait notre foi qu'on met en Jésus-Christ pour le salut de notre âme. Il dit, ce n'est pas l'action de croire, mais la doctrine crue. Donc, la différence entre les deux utilisations du mot foi, là. Puis, il nous dit aussi que c'est un synonyme du message lui-même. Donc, la foi, c'est un synonyme du message qui nous a été transmis. Il vient de Dieu, a été transmis à travers les âges, puis maintenant, on le prend directement de la parole de Dieu, puis on va le transmettre aussi aux autres. Mais dans l'œcuménisme, on ne veut pas définir la foi. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui beaucoup qu'il n'y a plus l'enseignement de la parole de Dieu. Là. Il y a plus, on dirait dans beaucoup d'endroits, on laisse tomber l'enseignement de la parole de Dieu, puis on va enseigner. Il n'y a pas de profondeur qui nous vient de la parole, là. Donc, pourquoi qu'on veut pas définir la foi? Ben, c'est parce qu'il y a tellement de différences. Puis afin de rassembler tous là, sous un même toit, ben, on laisse tomber la foi parce qu'on dit la doctrine divise. puis l'amour uni. C'est le message un peu de l'écuménisme ici. C'est pourquoi? C'est pour pouvoir s'unir. Mais ça, à quel prix? Encore T.S. Wilson, il dit, une foi non définie produit un paradis incertain avec une paix faible et douteuse. Donc, on n'est jamais sûr. Si la foi n'est pas définie, on n'est pas sûr de ce qu'on a là. Il dit que c'est un produit, un paradis incertain avec une paix faible et douteuse à n'importe quel prix, un repère pour des hérétiques. Oui, si la foi n'est pas définie, n'importe quoi va, n'importe qui dit n'importe quoi, puis on va avec ça. Puis ça, mais il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de paix. On est basé sur quelque chose de solide. C'est important ici. Dans Actes 2, 42, elle est appelée l'enseignement des apôtres, hein, parce qu'elle a été transmise par le Seigneur Jésus-Christ aux apôtres. Puis eux, à leur tour, ils nous l'ont mis par écrit dans la parole de Dieu. Puis on suit cette doctrine-là qui nous a été donnée, l'enseignement des apôtres. Dans 2 Jean 9, Jean l'appelle la doctrine de Christ. Donc si quelqu'un va plus loin, puis n'apporte pas la doctrine de Christ, donc c'est ça, c'est toujours en rapport avec le mystère de la foi ici qui nous a été transmis une fois pour toutes. Okay? Donc ce n'est pas seulement l'enseignement de Christ. Parce que des fois, on sait qu'il y a des Bibles, des éditions de la Bible, les paroles de Christ en rouge, mais toute la parole de Dieu, c'est la parole de Christ, c'est la parole de Dieu, est inspirée par le Saint-Esprit, puis elle est utile. Toute écriture est inspirée de Dieu, puis utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et prêt à toute bonne œuvre. Mais le mystère de la foi, ça comprend, c'est la doctrine concernant la personne du Seigneur Jésus-Christ, très important, et son œuvre. Donc, c'est la doctrine qui concerne le Seigneur Jésus-Christ et sa personne et son œuvre. C'est par rapport à sa divinité. C'est la vraie foi, la foi saine qu'on combat pour, ben, le Seigneur, c'est la divinité du Seigneur Jésus-Christ, très important. Son humanité parfaite, mais les deux qui ne rentrent pas jamais en conflit. Ils s'harmonisent parfaitement dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Des fois, c'est difficile pour nous de comprendre comment son humanité et sa divinité sont en pleine harmonie, mais il n'y a jamais de conflit dans l'humanité et la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Aussi, le fait qu'il est le Fils éternel de Dieu. Donc, il n'a pas commencé quand il est né. C'est un enfant aîné, mais c'est un fils qui nous est donné. Donc, il est éternellement le Fils de Dieu. De toute éternité, il était avec le Père, puis il est Dieu, le Fils éternel de Dieu. Aussi, sa naissance virginale. Des choses qui sont très importantes, ça fait partie du mystère de la foi. Son impeccabilité, non seulement il était innocent, sans péché, mais même incapable de pécher. C'est impossible que le Fils de Dieu pèche. Donc, son impeccabilité, c'est important. Des fois, des gens qui peuvent nous dire que le Seigneur Jésus aurait pu pécher, puis non. La parole, la foi qui a été transmise au Saint une fois pour toutes, nous montre que le Seigneur Jésus était impeccable. Il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il n'y avait rien. On sait qu'il a été tenté, mais ce n'était pas pour voir s'il allait pécher, c'était pour démontrer qu'il n'allait pas pécher. Donc, l'impeccabilité, aussi sa mort pour les autres. Partie de la foi qui a été transmise, c'est sa mort était comme substitut. Il prenait notre place dans la mort, puis il est mort pour les autres. Sa résurrection corporelle. Puis on voit que ces choses-là sont attaquées par des sectes qui vont attaquer ces choses-là. Il y a des gens qui disent qu'il n'est pas ressuscité corporellement, il est ressuscité en esprit. Mais on sait que le Seigneur Jésus, après qu'il a été ressuscité, il a dit: un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Puis il a dit, touchez-moi. Puis il a mangé avec eux autres. Puis c'est vraiment la résurrection corporelle. Tout ça fait partie de la foi qui a été transmise au Saint une fois pour toutes. Aussi, son ascension. Après sa résurrection, il est monté au ciel dans son corps. Puis il y a un homme maintenant dans la gloire. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Son sacerdoce aussi. sacerdoce qui n'est pas transmissible à cause que lui, il est vivant pour l'éternité. Aussi, sa seconde venue, quand le Seigneur Jésus va revenir sur la terre pour juger le monde. On sait que pour nous, il vient dans l'enlèvement, avant la tribulation, mais il revient aussi sur la terre pour juger le monde. Ensuite de ça, cette foi-là comprend aussi la doctrine des apôtres, comme on avait vu dans Actes 2, 41, il nous dit c'est l'enseignement des apôtres. Puis ça comprend la Sainte Trinité. Le fait que Dieu est un seul Dieu, mais en trois personnes distinctes, parfaitement unies, mais distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont égaux entre eux, mais distincts, tous trois éternels. Ça fait partie encore de la foi, du mystère de la foi. Aussi, qu'est-ce qui fait partie aussi de ça, c'est l'inspiration plénière des textes originaux de la parole de Dieu. Donc, chaque mot qui a été inspiré de Dieu, ça c'est important dans les textes originaux, c'est l'inspiration. Ce qu'on a entre les mains, nos Bibles, c'est des traductions, mais traduites d'après les textes originaux, grecs et hébreux, et aussi araméens pour une partie. Donc, ça a été inspiré de Dieu. C'est important de tenir ferme, combattre pour ces choses-là. La personne et l'œuvre du Saint-Esprit aussi. C'est important, des choses importantes de garder, de comprendre la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Aussi, la damnation éternelle des perdus. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas sauvés, ils vont être jugés, jetés dans l'étang de feu, un état conscient pour souffrir pour toute l'éternité. Mais aussi la félicité éternelle des croyants. Voyez-vous, toutes ces choses-là, c'est des choses importantes. L'Évangile aussi. L'Évangile par la foi, le salut sans les œuvres, basé sur l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ, accomplie une fois pour toutes à la croix du Calvaire. Mais on voit que la doctrine aussi a trois colonnes. Il y a trois colonnes qui soutiennent la doctrine. Vous savez, trois colonnes, ça nous parle de stabilité. Quand on a un petit banc là, à trois pattes, on peut le mettre même sur un plancher qui n'est pas égal, là, mais on va toujours être stable sur trois pattes. Quatre pattes, ça va branler, mais à trois pattes, là, les fermiers qui tiraient les vaches, là, il y avait des petits bancs à trois pattes parce que les planchers n'étaient pas toujours égaux dans les étables, mais avec un petit banc à trois pattes, on était solide. Puis la doctrine est basée sur trois colonnes, la doctrine biblique. Trois colonnes très importantes. Il y a la personne, une des plus colonnes, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas changer rien par rapport à ce que la Bible nous révèle de la personne du Seigneur Jésus-Christ. L'Évangile aussi. Vous avez des gens qui altèrent l'Évangile en ajoutant des choses à l'Évangile, que ce soit la loi ou les bonnes œuvres. Eh bien, l'Évangile, ça, c'est, il faut pas, on ne peut pas jouer avec ces colonnes-là. Puis aussi l'autorité des Écritures. L'autorité des Écritures qui est, c'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige toujours dans les Écritures, dans la vérité. Ça, c'est important aussi. Il y a des gens qui disent être dirigés par l'Esprit. S'ils sont dirigés par l'Esprit, ça ne viendra jamais en contradiction avec l'enseignement, pardon, de la parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, il nous dirige toujours dans la vérité. C'est pour ça que ces trois colonnes-là, on les retrouve dans 2 Corinthiens 11, verset 4. Parce que Paul, il exhortait les Corinthiens, puis il leur disait que fallait, de la même façon, il faut combattre pour la foi qui était transmise une fois pour toutes au sein. Dans 2 Corinthiens 11, 4, il leur disait un reproche. Il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc ça, c'est la première colonne, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc, Paul leur fait un reproche ici, c'est un reproche de dire, vous les supportez, vous les laissez venir parmi vous, vous les laissez vous enseigner un autre Jésus, prêcher un autre Jésus, ou recevoir un autre esprit que celui que vous avez déjà reçu, ou que vous recevez un autre évangile. Paul est dit, quand il leur dit, vous le supportez fort bien, c'est un reproche qu'il leur fait. Ils ne devraient pas écouter des gens qui apportent ces choses-là. C'est très important. Donc, dans un sens, vous savez, il faut faire attention à la théologie, parce que la théologie, des fois, là, il y a de la confusion dans la théologie. Puis, les théologiens ne sont pas tous en accord. Puis même, il y a des théologiens qui ne sont pas sauvés. Mais comment peuvent-ils recevoir les choses de l'Esprit de Dieu s'ils ne sont pas sauvés? L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Donc, ce n'est pas la théologie qui est... C'est pas que c'est mauvais dans un sens la théologie, mais c'est pas la théologie qui est l'autorité, parce que la théologie, il peut y avoir bien de la confusion. Il faut faire attention à ça. Les théologiens, Sundar Singh, il disait, lui, les théologiens analysent le lait de la parole. Moi, je le bois. Fait que c'est la différence entre la théologie puis la révélation de Dieu. La théologie, c'est l'homme qui essaie de connaître Dieu par d'une façon académique, dans un sens. C'est sûr qu'ils vont utiliser la parole pour essayer de comprendre Dieu, mais Dieu, lui, il se révèle dans sa parole. Il se révèle dans les Écritures, dans la communion avec nous autres, quand on passe du temps avec lui. Puis c'est pour ça que c'est important pour que Dieu se révèle à nous. Ben, première des choses, on doit être sauvé. On doit avoir reçu l'Esprit de Dieu, le salut de Dieu, l'Esprit de Dieu qui nous ouvre l'accès à Dieu. Parce que quand on était, avant d'être sauvé, on était mort spirituellement et Dieu est esprit. Donc, on ne pouvait pas communiquer avec Dieu parce qu'on était mort. Mais du moment qu'on est né de nouveau, là maintenant, notre esprit a été ranimé, l'Esprit de Dieu est venu nous habiter. Puis maintenant, on peut communiquer avec Dieu, puis Dieu se révèle à nous. Et c'est certain que pour qu'il continue de se révéler à nous, il faut marcher dans la lumière. Et si le péché, on laisse le péché régner dans nos vies, ben là, on n'aura pas cette communion-là. Parce que si l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, puis l'homme spirituel, au contraire, lui, il juge de tout parce que c'est spirituellement qu'on en juge, mais l'homme charnel, qui est un homme sauvé, mais lui, il est charnel, donc il est dirigé par la chair plutôt que d'être dirigé par l'esprit. Mais l'homme charnel ne peut pas recevoir, il en est au lait, il ne peut pas recevoir les profondeurs de la parole de Dieu. Donc, pour que Dieu se révèle à nous, eh bien, il faut être en communion avec lui, il faut confesser nos péchés. Puis, la parole de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Puis ainsi, Dieu peut communiquer. Et vous savez, il faut chercher. Il faut passer du temps dans la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut la lire, la méditer, la garder dans notre cœur. Puis Dieu se révèle à nous pendant toute une vie. C'est vrai. Puis c'est pour ça qu'il y a des frères qui ont vraiment passé le temps dans la parole de Dieu, dans la communion avec Dieu. Puis ils peuvent nous amener les choses que Dieu nous a données dans sa parole. Ils vont sortir des trésors de la parole de Dieu. C'est vraiment important. Mais donc, c'est Dieu qui se révèle. Mais en parlant de la foi, on va voir, il y a 11 passages qui parlent de la foi dans les épîtres pastorales. Puis, il y a beaucoup d'avertissements par rapport à ces passages-là. C'est dans 1 Timothée, puis dans 2 Timothée, puis tu sais, on va voir des versets qui nous parlent de cette foi-là, mais avec des avertissements aussi. Donc, dans 1 Timothée 1, 19, dans 1 Timothée, au chapitre 1, au verset 19, Paul dit, on peut peut-être commencer avec le verset 18 pour le contexte. Paul dit, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats le bon combat en gardant la foi. Vous savez, c'est là qu'on a le mot foi qui représente la doctrine enseignée et dit que tu combats le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. C'est ça qu'on a parlé tantôt, là, il faut rester, confesser nos péchés, marcher dans la lumière. Puis il dit, en gardant une bonne conscience, cette conscience, Quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Plein dit de ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc, ils ont fait, c'est possible de faire naufrage par rapport à la foi si on ne garde pas une conscience pure. C'est ça qui arrive, si on se détourne, si on laisse le péché régner dans nos vies, on peut faire naufrage par rapport à la foi. Puis dans 1 Timothée 3, 9, le passage qu'on a lu ensemble, il nous parle ici, dit de conserver. Donc, Timothée 1, 9, là, il parle des responsables de l'Église, des anciens, au verset 7, il dit, il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Puis là, ensuite, il parle des diacres. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Et encore une fois, ici, la question de la conscience est importante. Il faut conserver ce mystère-là dans une conscience pure. Ça, c'est notre responsabilité de garder la conscience pure pour rester toujours dans la vérité. 1 Timothée 4.1. Il parle d'abandonner la foi ici. 1 Timothée 4.1. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Puis ensuite, il donne des descriptions. Donc ici, d'abandonner la foi, c'est pas abandonner ma foi personnelle dans l'œuvre de Christ. Puis il y a des gens qui ils vont dire que ces gens-là, ils étaient sauvés, puis là, sont perdus. Le salut ne se perd pas. Mais on peut abandonner la foi comme l'ensemble de la doctrine chrétienne qui a été livrée au Saint une fois pour toutes. Mais si on abandonne cette foi-là, c'est qu'on porte nos regards vers des faux docteurs qui vont emmener des, comme il dit ici, là, des esprits, s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, il faut rester attaché à la foi ici. Il y a ceux qui abandonnent la foi. On va aller aussi dans 1 Timothée 4, 6. Il dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Puis là, il lui dit, repousse les contes profanes de vieilles femmes. Donc, Paul lui montre encore une fois ici là, comment c'est important. Tu es un bon ministre, nourri des paroles de la foi, puis il dit, et de la bonne doctrine. Dans 1 Timothée 5, 8, voyez-vous comment c'est important pour Paul quand il transmet, quand il parle ici à ses aides, il leur dit ces choses-là. On voit qu'il montre vraiment le sérieux de faire attention. Dans 1 Timothée 5, au verset 8 maintenant, il dit, attendez un peu, au verset, quand il parle des veuves ici, peut-être on va aller dans verset 5. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Donc, tu sais, il parlait que c'est de l'importance. Ça fait partie de la doctrine de prendre soin des siens. Eh bien, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il a renié la foi. Maintenant, si on va dans 1 Timothée 6 au verset 10. 1 Timothée 6 au verset 10, il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Voyez-vous comment c'est important là, de faire attention pour rester dans la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est toujours en rapport avec l'importance de garder la foi. Dans le 1 Timothée 6, 12, il dit, peut-être on va aller au verset 11 pour le contexte, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, il dit ici, combat le bon combat de la foi. C'est important. 1 Timothée 6, 21. 1 Timothée 6, 21. Peut-être qu'on va lire le verset 20 avec. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Donc, ils se sont détournés de la foi, puis Paul, il parle à Timothée de garder le bon dépôt en évitant les discours vains et profanes. Maintenant, dans 2 Timothée 3, 2 Timothée 3, au verset 8, voyez-vous comment c'est le sujet vraiment de ces épîtres pastorales-là, là? Il en parle constamment. Et il dit, il parle ici, de même, verset 8, de même que Genèse et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Donc, ils sont réprouvés, mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour nous comme le fut celle de ces deux hommes. Donc, ils sont réprouvés en ce qui concerne la foi. 2 Timothée 4, 7. 2 Timothée 4, 7. Paul ici qui parle de. On peut peut-être aller au verset 6, là. Il parle de son. De sa marche qui arrive à la fin. Il dit, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Donc, Paul, lui, il avait gardé la foi. C'est important qu'on puisse garder la foi. C'est des avertissements qu'il donne à Timothée ici. Tite maintenant, Tite 1, verset 13. Paul, il leur parle ici, il dit, ce témoignage est vrai. C'est pourquoi, parce qu'il avait cité l'un d'eux au verset 12, l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Donc ici, il fait qu'ils aient une foi saine. Vous savez, dans plus de la moitié de ces passages-là, il y a un avertissement de prendre soin, de faire attention, de garder. Les avertissements sont essentiels. C'est important d'avoir des avertissements quand on s'en va sur la route, puis il y a une construction, ben c'est bon que ce soit ou qu'il y a des endroits dangereux, il faut que ce soit averti, il y a des avertissements pour faire attention. Mais il ne faut pas seulement des avertissements, il faut aussi la nourriture, il faut garder un bon pourcentage. Là, dans Luc 1, verset 3 à 4, il dit, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, il y a des avertissements, mais aussi il faut prendre soin, il faut rechercher, il faut voir l'exactitude de ces choses-là. Donc, on va aller aussi dans 2 Pierre au chapitre 1. Il faut avoir des convictions. C'est important qu'on ait des convictions puis qu'on les garde, ces convictions-là. 2 Pierre au chapitre 1, versets 12 à 13. Il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Donc, il parle ici. Que vous soyez affermis dans la vérité présente. Pierre aussi, comme Paul, il donnait les avertissements, il fallait qu'on ait des convictions. Albert McShane, dans ce que la Bible enseigne, What the Bible Teaches, lui avait dit, là où la conviction est inexistante, le combat pour la foi cesse. Si on n'a pas de conviction, on ne combat pas. Donc, c'est important, on a vu dans les différents passages qu'il faut combattre pour garder la foi. Il faut pas abandonner la foi. Il faut être instruit dans la foi. Mais comme lui a dit, s'il n'y a pas de conviction, le combat, il va cesser. C'est là où la conviction est inexistante, le combat pour la foi va arrêter. Et il va cesser. On a une responsabilité envers ceux qui viennent après nous. Parce que si on garde la foi, une foi saine qui a été livrée au Saint une fois pour toutes, on doit la transmettre. Puis, vous savez, il y a des gens qui se, ils tiennent pas à cette foi-là. J'avais demandé à un frère une fois, j'ai dit, dans la direction que tu t'en vas, qu'est-ce qui va arriver avec la génération qui va suivre? Puis, j'étais vraiment attristé parce que lui, il m'a dit que ça ne l'inquiétait pas. Bon, ça devrait nous inquiéter qu'on ait transmis une foi saine comme Luc l'avait transmis à Théophile. Il a fait des recherches exactes, puis afin qu'il y ait une certitude. Puis c'est pour ça que les gens qui nous suivent, on ne doit pas s'adapter, on ne doit pas changer, on doit rester attaché à la foi saine. Puis ça, c'est important, là. Si on ne prend pas garde, c'est comme ne pas prendre garde à cette doctrine-là, à cette foi-là, le mystère de la foi, de le connaître comme il faut, puis de l'appliquer comme il faut. Si on ne prend pas garde, on est comme un marin qui jetterait son compas à l'eau, puis ses cartes marines par-dessus bord. Tu te livres vraiment aller à la dérive. C'est important de garder cette foi-là. Mais en défendant la foi, Paul nous exhorte quand même. Il faut faire attention. Parce que dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 5, Paul dit, le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc, Paul, il dit, la recommandation ici, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience. On en a parlé tout au long, là. Garder cette foi-là dans une bonne conscience. Toujours être en communion avec le Seigneur, ne pas laisser le péché briser notre communion et de toujours confesser nos péchés. Donc, il dit ici à Timothée, c'est une recommandation qu'il lui fait. Un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Vous savez, avant que Paul soit converti, lui, il défendait le judaïsme, puis il tuait les chrétiens pour défendre le judaïsme. Donc, on voit la différence, hein. Avant, quand il tenait tellement à la doctrine du judaïsme, que pour la défendre, il était prêt à tuer, puis il tuait les chrétiens. Il avait ajouté son approbation au meurtre d'Étienne, puis il allait dans les synagogues, puis il les arrachait, il les jetait en prison, puis il allait, quand il était converti, il s'en allait à Damas. Donc, la façon que lui défendait sa religion, c'est pas ça qu'on doit faire. Il faut faire attention à nous-mêmes dans la défense de la foi. C'est pour ça que dans 2 Timothée 2, versets 24 et 25, il dit, Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et vous, à travers même dans l'histoire de l'Église, combien ont... L'Église catholique, comment elle a tué les hérétiques parce qu'ils ne ils gardaient pas la foi catholique ou l'enseignement de l'Église catholique. Ils étaient prêts. Mais nous autres, ce n'est pas comme ça qu'on garde la foi. Comme Paul il dit ici, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Mais ce n'est pas facile, vous savez, de garder la foi comme ça. Bon, on ne tue pas les hérétiques, mais on enseigne la parole de Dieu. Comment ça va se faire? Bien, ça va se faire en exposant la parole de Dieu. Puis ça, c'est pas facile. Vous savez, c'est quand on choque, là, on a perdu notre argument. C'est parce qu'on n'a plus d'argument. Mais quand on est capable d'exposer la parole, c'est comme ça qu'on doit garder dans Tite, au chapitre 1, au verset 9, il dit, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter ou convaincre les contradicteurs. Donc, comment ça se fait? Ça se fait en prenant soin de connaître la bonne doctrine. D'une bonne façon, vous savez, si on est capable de... Quelqu'un s'attaque ou attaque la doctrine, la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, on doit être capable de prendre la parole de Dieu et de l'exposer d'une façon qu'elle soit évidente, afin que les contradicteurs... Eh bien, ils soient réfutés ou ils soient convaincus par la parole de Dieu. C'est la parole, ce n'est pas nous autres qui a le dernier mot, mais c'est la parole de Dieu qui a le dernier mot. Donc, on voit ici l'importance de cette foi-là, le mystère de la foi qu'on doit garder, qu'on doit combattre pour puis qu'on doit avoir des convictions, défendre cette doctrine-là comme un dépôt qui nous a été transmis, qui avait été transmis par le Seigneur Jésus-Christ aux apôtres, et eux nous l'ont mis par écrit dans le Nouveau Testament. Eh bien, nous, on doit le prendre, puis faire les recherches exactes pour avoir une foi certaine des convictions, puis transmettre ça. C'est ce que Paul faisait ici dans toutes ses instructions ici qu'il donne à Timothée, à Tite, puis aussi aux autres, puis même aux églises. Comment Paul, il faisait attention que ces gens-là conservent la foi dans une conscience pure, puis qu'ils puissent continuer de défendre cette foi-là. Donc, c'est important. On doit combattre pour garder cette foi-là, mais combattre avec d'être affable pour tous, puis de bien connaître la parole de Dieu pour défendre la doctrine, la sainte doctrine, la foi qui a été transmise au saint une fois pour toutes. Ce fait que là, je m'arrête ici, puis je vous donne la possibilité de pouvoir prendre votre micro et si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires, eh bien, on va prendre un temps ensemble pour regarder ça.
Mais comme tu disais, Gérald, c'est important de faire la différence entre la foi personnelle, c'est-à-dire la foi qui sauve, d'avec la foi, il y a le dépôt que le Seigneur nous a donné, c'est-à-dire les doctrines chrétiennes. Parce que ceux qui ne font pas la différence, habituellement, ils vont croire en lisant certains versets qu'on peut perdre notre salut. Comme il y a des versets qu'on a lus, par exemple. Quand on dit s'égarer loin de la foi, ou bien
Abandonner la foi.
abandonner la foi, il y en a qui vont dire, bon, c'est la foi, ils vont penser que c'est la foi personnelle. C'est pas ça. La foi personnelle, ça se perd jamais, ça. Et par contre, on peut avoir cru certaines vérités chrétiennes, puis y renoncer plus tard. Ça c'est des choses qui arrivent.
C'est ça, ouais, ça arrive qu'il y a des gens qui abandonnent la foi, puis ils se détournent vers des esprits séducteurs, des esprits de démons. Parce que il y a beaucoup de gens qui enseignent des fausses doctrines, puis il faut faire attention. Il faut sonder les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, si c'est selon la doctrine.
J'aimerais, Gérald,
Oui.
est-ce que tu m'entends?
Oui, je t'entends bien. On
Oui.
t'entend tout.
OK, merci beaucoup. Dans 2 Timothée, chapitre 2,
Oui.
versets 11, 12 et 13.
OK.
Alors, avant de le lire, ma question est, si quelqu'un volontairement se détourne de la foi, puis qui devient un apostat, il devient un apostat par rapport à la parole de Dieu. À ce moment-là, qu'arrive-t-il de lui? Alors, je lis les versets. Ça dit, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. C'est évident. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. C'est comme tu dis ce soir, il faut persévérer dans la foi. Si nous le renions, ça veut dire se détourner, en fait. Lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, par contre, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Donc, je reviens. Si, disons, si on se détourne volontairement de la foi, ça dit, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Alors, ma question. Quelqu'un devient un apostat volontairement et qui ne veut plus rien savoir de la parole de Dieu, qu'est-ce qui arrive?
C'est parce que le mot apostat, il faut faire attention. Un apostat, c'est quelqu'un qui n'a jamais été sauvé, comme Judas. Il faisait partie d'eux autres, il était avec eux autres, il a participé avec le Seigneur Jésus, tout ça. Même, il y a eu, quand le Seigneur les avait envoyés en mission, mais il n'était plus jamais un vrai. Un apostat, ce n'est pas quelqu'un qui était vrai, c'est quelqu'un qui était faux, mais qui se révèle éventuellement. Puis se détourne de. Il pouvait être dans la foi, pas nécessairement sauvé, mais là, il se détourne de la foi. Ça, c'est un apostat. Mais quelqu'un qui est sauvé n'est pas un apostat. On ne peut pas être un apostat parce qu'on ne peut pas perdre notre salut. C'est important. On sait que on voit dans les autres, c'est un passage ici qu'on pourrait peut-être interpréter comme cela, mais à la lumière de d'autres passages comme Jean 10:28, que le Seigneur Jésus dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Il n'y a aucune condition. C'est lui qui donne la vie. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui est plus grand que moi, mais personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Mais ici, quand il parle de les renier, si c'est un apostat, si c'est quelqu'un qui n'était jamais sauvé, mais aussi, quand ça n'avait pas, faut pas dire ça, si il dit, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va perdre notre salut. On ne peut pas perdre notre salut. Et puis, il y a beaucoup d'autres passages. Quand le Seigneur dit qu'il nous donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, la vie éternelle, ça n'arrête pas, là. Ça continue toujours. Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a le pouvoir, c'est lui qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à ce qu'il vienne. Fait qu'on ne peut pas interpréter ce passage-là pour dire que quelqu'un ne peut pas devenir un apostat s'il est un vrai croyant. Il peut se détourner de la foi. Il peut tomber dans le péché, on appelle ça un rétrograde. Des fois, c'est dur pour nous autres de discerner entre un rétrograde puis un apostat. On ne sait pas. C'est pour ça que Jean qui dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, puis moi, je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Nous autres, on est justifiés aux yeux des hommes par les œuvres, parce qu'on ne peut pas voir la foi, nous autres. Mais quand on pense à Judas, lui est un apostat parce qu'il n'a jamais été vrai. Mais Pierre, lui, est un rétrograde. Mais quand on les regarde, si on sait que la parole de Dieu nous dit que Pierre était sauvé puis que Judas était perdu, mais si on met ça de côté un peu, là, regardons ce que Pierre a fait, c'était pas mieux que Judas, là. Puis un vrai chrétien peut faire des choses terribles s'il s'éloigne de Dieu. Mais son salut n'est pas entre ses mains, son salut est garanti par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Est-ce que ça répond à ta question, Olivier?
Oui, ça répond. Non, pas que je veux.
Non, je sais que tu veux
Je
pas.
crois aussi qu'on ne peut pas perdre notre salut.
Ouais, c'est ça.
Si je vais aller dans un autre verset, si on allait dans Colossiens, je ne vais pas prendre trop de temps. Je vais aller dans Colossiens, mettons, chapitre 1er.
OK.
Colossiens, chapitre 1er, le verset 21,
OK.
ça dit, OK, je le lis. Alors, Colossiens, chapitre 1er, verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Ça, c'est bien. Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. On comprend bien ça. Si du moins vous demeurez et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile, que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre.
OK.
Alors, c'est quand même un passage qui est assez sérieux, hein? C'est que il nous fait paraître devant lui, saint, sans défaut, sans reproche, c'est extraordinaire. Il faut demeurer dans la foi. Mais la condition, c'est demeurer dans la foi, être inébranlable dans la foi, sans s'en détourner. Non pas ce que je veux dire encore qu'on peut perdre notre salut, mais c'est quand même des passages sérieux.
C'est des passages sérieux, oui, c'est ça. Mais c'est ça quand il dit, c'est pour faire paraître devant lui sans défaut et sans reproche. Parce que quand, ça ne veut pas nécessairement dire juste dans ce temps-là, mais maintenant, là, si on reste dans la foi, irréprochable, comme il dit ici, là, sans reproche, si vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi sans vous détourner, c'est que c'est ça, là, on paraît devant lui juste, irréprochable. Mais si quelqu'un n'était pas sauvé, puis que lui, il se détourne de la foi, ou comme on a parlé de la foi, le mystère de la foi, ben là, c'est sûr qu'il dit, c'est pas quelqu'un de sauvé. C'est toujours ces versets-là qui semblent donner raison à ceux qui parlent, disent qu'on peut perdre notre salut, mais il faut toujours qu'il soit interprété à la lumière des versets qui sont clairs par rapport au fait qu'on est sauvé éternellement, la sécurité éternelle du croyant.
Merci beaucoup, Gérald.
Okay.
Je donnerai une définition de l'apostasie. Quelqu'un qui est dans l'apostasie, c'est quelqu'un qui a déjà cru certaines vérités, mais qui n'y croit plus.
Ouais.
Et je pense que c'est le cas de nos amis catholiques, la plupart des catholiques qui, aujourd'hui, qui croyaient bien des choses qui étaient vraies, selon la parole de Dieu, mais qui aujourd'hui n'y croient plus, sont plus pratiquants. Je pense que l'Église catholique est en apostasie aujourd'hui.
Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres commentaires, on va peut-être terminer par un mot de prière. Puis ceux qui doivent partir peuvent partir. S'il y en a qui veulent continuer à jaser, on pourra continuer à jaser. Donc, je vais terminer avec un mot de prière, puis ceux qui doivent partir pourront partir. Seigneur notre Dieu, on te remercie encore pour ta parole. On te remercie, Seigneur, pour l'œuvre que tu as faite pour nous, une œuvre merveilleuse de salut, Seigneur, qui est basé sur ce que le Christ a fait sur la croix pour nos péchés. Mais on te remercie aussi, Seigneur, pour ce bon dépôt que tu nous as remis, ta parole, la sainte doctrine, la foi, Seigneur, le mystère de la foi. On te demande, notre Dieu, que tu puisses nous aider à garder ce mystère de la foi, puis de combattre pour la foi qui a été livrée au Saint une fois pour toutes. Seigneur, on te remercie. Puis on te demande aussi de nous aider à pouvoir transmettre avec certitude cette foi qui nous a été remise, parce qu'on a cherché, Seigneur, pour avoir l'exactitude. On te remercie encore une fois. Bénis chacun, Seigneur, et protège-nous durant cette semaine jusqu'à ce qu'on se retrouve la semaine prochaine dans ta volonté, Seigneur. On te remercie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.